face à l'urgence écologique, que doit-on faire ? Déserter ou agir de l'intérieur ?
Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceur d'alerte, dirigeant, militant, syndicaliste, investisseur, on a tous connu ce moment où on s'est demandé comment agir, quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact, quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins. Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ?» Vous vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective.
Quand l'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant.
Aujourd'hui, nous recevons Lucie Pinson. Vous êtes militante de la transition écologique. Après avoir œuvré au sein de l'association Les Amis de la Terre, vous êtes aujourd'hui directrice de l'ONG Reclaim Finance, que vous avez fondée en 2020. Vous définissez comme une ONG, un think tank et un contre-pouvoir citoyen pour pousser les systèmes financiers à désinvestir des énergies fossiles. Reclaim Finance suit et analyse les activités des acteurs financiers pour en proposer un décryptage alternatif et exposer leur réel impact. Comme fait d'armes, on peut citer notamment votre action il y a quelques années au sein des Amis de la Terre qui a permis de pousser 16 groupes financiers dont BNP Paribas, Société Générale, AXA, Crédit Agricole à se désengager totalement du charbon. Face à vous, Alexis Vrignon. Alexis, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Orléans, enseignant-chercheur en histoire contemporaine. Vous concentrez aujourd'hui vos recherches sur l'histoire des mouvements écologistes et des conflits environnementaux en France et en Europe, des années 60 à nos jours. On peut citer parmi vos livres « Une histoire des énergies alternatives et renouvelables à l'âge industriel » aux côtés de François Jarige et « Une histoire des luttes pour l'environnement » avec Anne-Claude Ambroise Rendu, Steve Agimon et Charles-François Matisse. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, dans cet épisode, on va se questionner sur la capacité des ONG à transformer l'entreprise et à la pousser à accélérer l'évolution de ses activités pour réduire, voire réparer son impact environnemental. Et pour commencer, moi, j'aimerais vous poser une question. Lucie, peut-être en point de départ, pouvez-vous nous raconter la lutte que vous avez menée contre l'investissement dans le charbon par les banques ?
Oui, volontiers. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a commencé en 2013. Les premières mesures ont été surtout adoptées à partir de 2015, hein. Mais c'est vrai qu'on a commencé à se pencher sur le sujet en 2013 et qu'on arrivait dans un contexte où non seulement la responsabilité des acteurs financiers, donc des grandes banques, des grands assureurs, des grands investisseurs dans l'équation climatique n'était pas connue, n'était pas du tout discutée, elle est un peu plus aujourd'hui, mais encore il y a beaucoup à faire, et on arrivait aussi dans un moment où le climat n'était pas du tout à l'agenda public et le charbon était un sujet extrêmement obscur, opaque, on n'avait pas connaissance en France du rôle du charbon dans le mix énergétique au niveau international et donc des ravages qu'il cause, aussi bien sur le plan climatique que sanitaire. Et donc déjà, en fait, on arrivait dans un grand vide et il a fallu le combler, il a fallu communiquer aussi bien en direction des citoyens déjà potentiellement engagés ou à engager sur ces questions-là, et puis aussi en direction des acteurs financiers eux-mêmes et de leurs équipes pour les alerter sur la situation climatique et sur l'impact du charbon et de manière à le mettre à l'agenda, donc notamment avec la publication de rapports, la publication de vidéos pour les pousser à se saisir du sujet. Il a fallu aussi aller contre des idées reçues, l'idée que le charbon pouvait être nettoyé, qu'on pouvait faire du charbon propre, donc il suffisait pas d'en sortir, mais que juste changer par de la technologie les impacts. On a eu aussi à lutter contre l'idée que le charbon était nécessaire pour le développement des pays du Sud. Donc voilà, on a dû faire tout ça. Par contre, maintenant, une fois que tout ça existe, ça ne suffit pas à mettre les acteurs financiers en mouvement. Pour ça, il faut engager un rapport de force. Et le rapport de force, il faut qu'il s'établisse sur déjà une bonne compréhension de où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on est en mesure d'attendre, en mesure d'opérer comme transformation au niveau des acteurs financiers, qu'on va appeler dans ce contexte-là nos cibles. Et très certainement, le rapport de force, à l'époque, il n'est pas du tout favorable à nous, notamment parce que le sujet, comme je l'ai dit, n'est pas à l'agenda. l'agenda. Et puis aussi parce que le mouvement climat n'est pas aussi fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on a en face de nous des mastodontes qui pèsent des milliards. Et donc, très réalistiquement, on ne va pas demander aux acteurs financiers de sortir du secteur du charbon. À l'époque, on sait qu'on serait accueillis avec un rire et puis c'est tout. Par contre, on va canaliser notre énergie sur un projet en particulier, le projet AlphaCall qui se trouve en Australie et qui est soutenu à l'époque par une grande banque française qui s'appelle Société Générale. Et on arrive à un moment intéressant puisque la banque soutient un projet qui peut être arrêté. On arrive à un moment stratégique dans le cycle du développement d'un projet. On sait que si la banque se retire, il y a de fortes chances que le projet ne voit pas le jour. Et en effet, il n'a pas vu le jour grâce à notre mobilisation. Et le projet est un projet idéal, puisque c'est pas n'importe quel projet dans le secteur du charbon, c'est un projet qui est particulièrement, qui est une aberration écologique, une aberration sur tout plein de vues. Hein. On est donc en Australie, donc il y a des enjeux sociaux, des enjeux de droits humains, mais surtout on est là sur un projet qui pourrait ouvrir la voie à 8 autres projets dans un bassin inexploité de charbon. Donc on a là une véritable bombe climatique, alors que tous les scientifiques déjà à l'époque disaient il faut laisser quand même le charbon dans le sol. Là, on s'apprête à ouvrir un nouveau champ de charbon qui pourrait contribuer à émettre autant que l'Allemagne, qui était à l'époque le 6e plus gros émetteur au niveau international. Et puis, on a aussi un projet qui vise à exporter du charbon vers des marchés asiatiques ou indiens à travers la Grande Barrière de Corail. Donc, en plus, on a un projet qui est complètement hallucinant pour la biodiversité. Et donc on va se mobiliser pendant un an et demi avec énormément d'actions citoyennes dans plein de villes. On va aller jusqu'à la désobéissance civile puisque l'association BC qui est affiliée aux Amis de la Terre, très impliquée sur cette campagne, va aller jusqu'à déverser une tonne 8 de charbon devant la représentation de Société Générale au Pays Basque. On va à l'Assemblée Générale aussi pour directement alerter la direction de la banque. Voilà, donc on va faire énormément de choses. On va intensifier pendant un an et demi le type d'action pour escalader le rapport de force. Et Société Générale va finir par lâcher après un an et demi de campagne. Et ça va être une des premières fois où le mouvement climat, les ONG au niveau international, va pousser une grande banque à se retirer d'un projet. Et là, ça va vraiment ouvrir la voie à des luttes beaucoup plus importantes ensuite, pour pas seulement être dans une logique défensive de « on pousse une banque à se retirer d'un projet qu'elle considérait déjà à soutenir », mais on va là alerter les banques et pousser les banques, engager des rapports de force pour les pousser à s'engager proactivement, à ne plus toucher à tout un secteur d'activité.
À Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris, 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale.
Et si la guerre de l'eau était déclarée, il y a des milliers de militants écologistes qui manifestent aujourd'hui dans ce champ des Deux-Sèvres contre la construction de ce qu'ils appellent une méga-bassine. Le vrai nom est retenue de substitution. Ce sont d'immenses réservoirs qui sont destinés à irriguer les exploitations agricoles. La retenue ici à Sainte-Soline fera une superficie d'environ 15 terrains de football.
Voilà deux extraits à quasiment 50 ans d'intervalle. Le premier en 75 contre la construction de la centrale de Fessenheim et puis la deuxième contre les bassines dans les Deux-Sèvres en 2022. Peut-être pour réagir à ces deux extraits, Alexis, moi je voulais vous poser la question, de quand datent les luttes environnementales et puis quelles sont les différentes formes que prennent ces mouvements de lutte ?
Alors, à partir du moment où il y a eu de l'industrialisation, il y a eu des nuisances. Donc forcément, les gens qui étaient impactés par ces nuisances, les riverains au premier chef, pouvaient se mobiliser ponctuellement, parce qu'ils voyaient leur culture être détruite par les émanations toxiques, parce qu'ils voyaient leur linge sali, et ainsi de suite, parce qu'ils tombaient malades. Donc, depuis le 19e siècle, on avait des mobilisations. Mais des mobilisations surtout de riverains. Éventuellement de quelques naturalistes à certains moments, mais c'était relativement ponctuel. Il y a un basculement qui s'opère dans les années 60-70. Et c'est le sens un peu de l'extrait sur Fessenheim, parce que là, on commence à comprendre ce que peut impliquer l'environnement, ce que peut impliquer la science écologique, et donc de mieux comprendre les phénomènes qu'entraîne justement la diffusion de toxiques dans l'environnement. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, la question de la radioactivité fait beaucoup pour faire prendre conscience, non seulement donc des dommages éventuellement causés par les radioéléments, mais par toute une série d'autres toxiques, métaux lourds, et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment un changement qui entraîne l'apparition d'énormément d'associations, parfois nationales, parfois locales, sur ces questions-là. Parfois tourner vraiment sur un objet extrêmement circonstancié, une rivière, parfois à l'échelle régionale, la lutte antinucléaire étant la partie la plus visible et sans doute la plus mobilisatrice dans les années 70. On a jusqu'à 100 000 personnes qui manifestent contre Plogoff, par exemple, au début des années 80. Donc c'est vraiment des choses très massives qui se font de manière extrêmement variée. Dans l'extrait, il parlait de, à la fois une braderie, une manifestation, ainsi de suite. On est dans cette ambiance-là. Et après, à partir des années 80, il y a une sorte de mise en avant plus d'une forme d'expertise qui arrive. Pour souligner justement dans le dialogue nécessaire, notamment avec les pouvoirs publics, eh bien, la crédibilité des positions défendues pour pousser des solutions sur tel ou tel dossier. Donc là, il y a un basculement qui correspond à finalement l'arrivée en France du modèle de l'ONG. Auparavant, on ne parlait pas d'ONG dans le vocabulaire courant. On parlait d'association et on avait plus en tête une forme de militantisme associatif à la française, quoi. Loi 1901, si, avec tout ce que ça peut impliquer comme représentation. Et à partir des années 80, là, il y a un modèle d'ONG avec les Amis de la Terre qui compte beaucoup dans cette diffusion d'un nouveau type de rapport à l'action collective, avec Greenpeace aussi, qui fournit toute une série de modèles. Et donc c'est sur ce modèle-là que vont se mettre en place toute une série d'organisations à partir des années 80.
Peut-être je me retourne vers vous, Lucie. Quelles sont un peu les activités, quels sont les moyens de lutter pour une ONG, notamment quand, et puis c'est le cas de Reclaim Finance, notamment quand un certain nombre des impacts sont plutôt, puis comme vous le disiez tout à l'heure, invisibles ou indirects, difficiles finalement pour les citoyens d'en prendre conscience. Quels sont vos moyens de lutte, quels sont vos moyens d'action?
C'est une excellente question parce que surtout en plus sur la question du climat, c'est un sujet qui est soit désincarné, parce qu'on parle de choses en effet qu'on ne voit pas, même si c'est de moins en moins le cas avec l'accélération du dérèglement climatique et de ses impacts qui commencent clairement à avoir des effets sur nos vies au quotidien. C'est également extrêmement compliqué parce que c'est un sujet qui peut sembler extrêmement difficile à combattre. Qu'est-ce que chacun peut faire contre le dérèglement climatique? Et donc le premier enjeu, c'est de montrer que chacun justement a des leviers d'action à son niveau. Là, sur le projet Alpha Call, bon, bah, très clairement, on parle d'un projet qui est à des milliers de kilomètres d'ici. Et bien, on va rappeler qu'on peut agir puisque c'est une banque française qui est derrière ce projet et qui joue un rôle clé dans ses développements. Donc on va déjà rappeler la responsabilité des institutions financières françaises ou des institutions politiques, des institutions économiques. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être l'importance de documenter. Et en effet, les ONG, avec leur mouvement de professionnalisation, vont construire une expertise de plus en plus précise et vont être à même d'arriver sur des sujets avec des chiffres, avec des faits, avec des arguments extrêmement précis. Donc ça, c'est extrêmement important également pour mobiliser par ailleurs, puisqu'on va avoir tout un enjeu de rappeler les ordres de grandeur aussi, de pouvoir mettre en lumière l'impact d'un projet comme le projet Alpha Call, avec les petits gestes du quotidien que les pouvoirs publics peuvent inciter la population à faire. Bon, bah voilà, il va être important de rappeler les ordres de grandeur, donc ça c'est un premier point, documenter, chiffrer, arriver avec un gros bagage d'expertise pour être crédible, pour être relayé dans les médias, et puis pouvoir aussi convaincre, parce que le rapport de force, ça ne va pas suffire, dénoncer c'est joli, mais en fait à la fin il faut que des décisions soient prises et donc il va falloir être également prescriptif de mesures très précises qu'on souhaite voir les acteurs publics ou économiques ou financiers adopter. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, ça va être d'incarner la lutte. La mobilisation sur place a déjà cet objectif-là, il y a l'objectif des blocages en tant que tel, mais c'est vrai qu'on bloque un jour un projet, on ne le bloque pas tous les jours, mais il y a l'importance d'incarner là la mobilisation, de faire voir que sur ce lieu-là, il y a un conflit, il y a des rapports de force et il y a du coup un sujet sur lequel chacun peut se positionner pour ou contre tel ou tel point. Et donc vraiment l'incarnation, ça va être extrêmement important. Donc nous, à notre niveau, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire venir ce qu'on appelle des speakers, enfin des représentants de communautés impactées, mobilisées contre des grands projets d'infrastructures développés avec le soutien des institutions financières françaises. françaises, eh ben, on les invite à venir en France pour témoigner de la situation sur place, pour témoigner aussi de leurs souhaits, puisque très souvent, ces grands projets sont développés avec le soutien des institutions financières françaises au nom de leur développement, au nom de leur bien-être. Eh ben, en vérité, il y a beaucoup de projets qui sont mobilisés contre les populations sur place. Donc, c'est important de faire entendre leur voix.
Peut-être une autre question pour vous, mais Alexis, n'hésitez pas à répondre par ailleurs. On dit souvent notre carte bancaire, c'est plus puissant qu'un bulletin de vote, en parlant quelque part de la capacité à faire du boycott. Est-ce que c'est un mode d'action aussi qui fonctionne? Est-ce que ça a des limites? Enfin, selon vous, est-ce que la meilleure manière, c'est plutôt d'aller chercher les pouvoirs publics pour réguler typiquement là, le système financier, ou est-ce qu'il faut plutôt demander aux citoyens de se mobiliser pour arrêter de consommer là, typiquement dans des banques qui ne sont pas éthiques?
Il faut être assez lucide sur l'impact que les gestes individuels peuvent avoir sur la transformation globale de l'économie, qui est l'objectif final dans un contexte d'urgence climatique. Changer de banque individuellement est intéressant comme tactique d'action. En revanche, la NEF aujourd'hui compte un peu plus de 30 000 sociétaires. Bon, bah, c'est microscopique hein, par rapport à une BNP. Mmh. Il va falloir des changements de banque pour que BNP prenne la chose vraiment sérieusement. En revanche, c'est intéressant puisque ça montre qu'il y a une prise de conscience, ça montre qu'il y a un refus de coopérer. Et ça permet quand même de titiller les grandes institutions financières. Ça permet aussi d'interpeller à travers ce geste très simple qui concerne tout le monde puisqu'on a tous un compte en banque sur la responsabilité des grandes banques dans la crise climatique. Donc c'est aussi un prétexte à discuter, à informer, et c'est peut-être une première porte d'entrée pour beaucoup de personnes pour après aller plus loin, se mobiliser sur d'autres types d'actions visant à mettre la finance au service du climat. Et donc nous, on est assez favorable à une coordination entre toutes entre tous ces types d'actions.
Effectivement, je peux qu'être d'accord avec Lucie sur la question du boycott, sur son importance, qui peut être une importance dans un rapport de force ou en termes de publicisation de données. Mais c'est vrai qu'en termes de masse de personnes qui peuvent être mobilisées soit sur un boycott, soit sur un changement de banque, mais finalement, qui est une opération qui, pour beaucoup de personnes, apparaît relativement longue, relativement complexe, et qui finalement, sauf surprise de ma part, ne concernera toujours qu'une minorité de personnes et qui, en tant que telle, ne constituera pas une masse critique suffisante pour, à elle seule, faire un changement important. Ça a été le cas aussi pour beaucoup de boycotts où, en fait, ce sont des personnes qui sont déjà militantes, qui sont engagées là-dedans, qui peuvent effectivement avoir un impact parce qu'elles diffusent un peu ces idées, mais c'est vrai qu'elles sont rarement généralisables. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des petits gestes, où effectivement ça a été très mis en avant à partir des années 80 et surtout 90, sur si chacun fait ce petit geste, cela changera beaucoup de choses, et ainsi de suite. Certes, mais on s'est rendu compte de plein d'autres choses qui survenaient par là. L'effet rebond, quand on économise sur telle ou telle chose, eh bien finalement on a tendance à plus consommer d'une manière générale. Et sur la tendance générale, qui est effectivement celle d'une société de consommation, dans laquelle la consommation est encore quelque chose qui est extrêmement structurant socialement, et dont il est difficile de sortir d'une manière extrêmement massive. Et donc c'est vrai que cette question-là ne peut être qu'une des portes d'entrée pour une transformation, à mon sens.
Pour rajouter juste un point, je pense que tous ces petits gestes ou la manière de, enfin, les alternatives qui se développent sont aussi intéressantes parce qu'elles montrent qu'on peut faire les choses différemment. Donc elles ont aussi un intérêt dans ce qu'elle projette de notre capacité collectivement à faire les choses différemment que ce que les grandes institutions souhaiteraient nous faire faire. Donc c'est aussi des poches d'expérimentation, ça crée des champs d'expérimentation citoyenne qui sont intéressantes, qui sont enthousiasmantes, qui permet aussi de porter une vision, un ce vers quoi se mobiliser.
À la suite du procès de Berne, avez-vous apporté des modifications aux pratiques publicitaires de Nestlé dans les pays en voie de développement?
Oui.
Cela signifie-t-il que les reproches adressés à Nestlé quant à une publicité dans le tiers-monde contraire à l'éthique et à la morale étaient fondés?
Non, mais là, le non est difficile à dire. Il faudra qu'on puisse discuter ce point.
Alors dans cet extrait daté du 1er mars 1977, on entend Arthur Führer, qui est administrateur délégué du groupe Nestlé, répondre aux questions d'un journaliste dans l'émission En direct avec, suite à l'affaire du scandale du lait en poudre commercialisé en Afrique et accusé de provoquer la mort de nourrissons par son utilisation inadéquate. Le groupe de travail sur le tiers-monde de Berne est à l'origine de cette affaire, mais dans les années 80, 150 organisations internationales fondent l'IBFAN, International Baby Food Action Network, pour lutter contre la stratégie de communication de l'industrie du lait en poudre qui s'appuie en particulier dans les pays en voie de développement sur la prétendue supériorité de celui-ci sur le lait maternel. Je trouve cet extrait, il est intéressant pour justement, je me tourne peut-être vers vous Alexis, mais quelle a été l'évolution de ces mouvements, de ces ONG au cours des 50 dernières années? Quelles ont été l'évolution peut-être aussi de leur mode d'action et puis le rapport qu'ils ont eu avec les citoyens et les politiques?
Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que ça illustre quelque chose qui n'est pas si courant que ça, c'est-à-dire que beaucoup de luttes environnementales sont liées à un territoire. Un territoire sur lequel on veut construire une centrale, un territoire sur lequel il y a une industrie polluante, et ainsi de suite. Et donc c'est ce territoire qui fait la cohérence de la lutte et qui fonde la mobilisation souvent. Et on peut comprendre ça pour plein de raisons. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de se mobiliser pour quelque chose qui a un impact beaucoup plus éloigné ou beaucoup plus diffus. On parlait tout à l'heure justement des années 2010 dans lesquelles justement ces mobilisations sont devenues plus importantes. Et c'est vrai que là, c'est un bon exemple de ce qui a pu se passer, qui touchait donc ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, ce qu'on appellerait encore maintenant, même si ça commence à dépasser les pays du Sud. Et donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment eh bien, il y a pu avoir justement toute une grammaire d'action qui impliquait à la fois la publicisation de ce qui se passait et la publicisation également dans les pays du Nord, là où se trouvaient généralement les centres dirigeants. Et donc il y avait toute une stratégie justement qui était délicate et extrêmement intéressante à montrer. Ce que Greenpeace faisait aussi d'une autre manière, par exemple, sur la question des baleines. Les baleines qui étaient chassées ne l'étaient pas juste en rade de la Baule ou du Havre. Donc il fallait aussi toute une stratégie qui passait par l'image, et qui passait donc aussi par des progrès technologiques qui permettaient de diffuser ces images. Et ça, c'est à partir des années 80 que ça se met en place.
Lucie, peut-être, ça fait un certain nombre d'années que vous travaillez dans des ONG. Quelles a été, selon vous, les évolutions des modes d'action au cours de ces dernières années? Vers quoi on se dirige aussi aujourd'hui?
Alors, en effet, on a eu, donc à partir des années 80-90, donc l'émergence du mouvement altermondialiste qui déjà fait émerger une nouvelle type de lutte, puisque là, on a des mobilisations qui visent directement qui dépasse le logiciel tiers-mondiste qui est plus adapté pour avoir vraiment un logiciel plus de lutte contre les centres de pouvoir économique, financier, etc. Donc avec des campagnes notamment au niveau des Amis de la Terre qui émergent sur la justice économique, donc qui visent directement les responsables politiques, économiques et financiers, les grandes institutions. On va avoir des campagnes qui au début sont quand même perpétue le modèle de l'ONG qui interpelle, qui dénonce, mais qui n'est pas tant dans la prescription. Et puis à partir peut-être des années, fin des années 2000, début des années 2010, on va avoir une professionnalisation accrue de ces mouvements-là qui vont aller de plus en plus dialoguer directement aussi avec les institutions qu'elles cherchent à transformer de manière sans angélisme à comprendre la réalité de leurs opérations, de leur business model et à comprendre comment des mesures pourraient être mises en place pour avancer dans la bonne direction. On savait pas trop comment s'y prendre. On demandait aux banques d'arrêter de financer les entreprises dans le secteur du charbon. On sait bien que c'est réalistiquement pas possible du jour au lendemain parce que le charbon il va se maintenir dans le mix pendant un certain moment et donc on peut pas arrêter de financer les entreprises, toutes les entreprises du jour au lendemain. Et sauf qu'on savait pas comment déterminer quelles entreprises continuer exclure, quelles entreprises peuvent se maintenir parmi les clients d'une banque, etc. Et là, on va avoir notre partenaire allemand qui, suite à des enjeux similaires avec le fonds de pension norvégien, va décider de mettre en place une base de données qui répertorie l'intégralité de l'industrie du charbon et qui va fournir des données extrêmement précises sur l'exposition, l'activité d'une entreprise dans le secteur du charbon, ses plans d'expansion, où elle se développe, les codes financiers pour la retrouver rapidement dans les systèmes informatiques des acteurs financiers, etc. Et donc là, on a une ONG qui va jouer le rôle de ce qu'on appelle les fournisseurs de données privées, et qui va supplanter ces acteurs-là, puisqu'aujourd'hui, les bases de données d'Urgewald, elles sont utilisées par des centaines d'acteurs financiers au niveau international, et ça permet de guider, d'informer l'adoption de leur politique sur le secteur du charbon, du pétrole ou du gaz. AXA, en France, a été un des premiers acteurs financiers français à dire bah, « moi, je prends la base de données d'Urgewald, c'est une ONG, mais c'est un travail d'extrême de grande qualité et c'est bien mieux que ce que je peux avoir sur le marché privé ». Et donc là, on a ce type de rapport-là qui se met en œuvre. Et bien entendu, ça n'enlève absolument rien au rapport de force, ça n'enlève absolument rien au conflit, parce qu'une fois, la donnée ne fait pas tout. Ce serait trop facile, malheureusement. C'est bien que l'information n'a jamais poussé un acteur à agir. Pour l'illustrer hyper aisément, on voit que les assureurs étaient au courant de la catastrophe climatique dès les années 70, et pourtant ils ont mis, alors que pourtant c'est les premiers concernés par ce phénomène-là, ils ont mis 45 ans à se dire « je vais peut-être arrêter d'assurer directement l'ouverture de nouvelles centrales à charbon qui ne font qu'aggraver la situation. Donc l'information ne fait pas l'action, mais elle va être nécessaire. Et donc les ONG vont aussi se positionner sur ce rôle-là pour devenir des interlocuteurs crédibles. Et ça va être une palette d'actions complémentaires au rapport de force qu'elles peuvent instituer publiquement pour s'attaquer à la réputation d'un acteur, ou en tout cas taper là où ça fait mal et le pousser à réagir.
Je crois que sur cette question-là, c'est intéressant de souligner combien les mouvements et les personnes qui sont mobilisées sur les questions environnementales et climatiques peuvent avoir des stratégies et des options qui peuvent être assez diverses. Puisqu'on a là, effectivement, une branche qui est vraiment plus axée sur une forme d'expertise, et une expertise très très fine finalement, parce que pour suivre ces mouvements financiers, ainsi de suite, il faut avoir vraiment un accès à l'information, il faut savoir l'interpréter, enfin, il faut savoir sur quels interlocuteurs agir, donc ça demande toute une série d'expertises qui sont extrêmement intéressantes. Et on a tout un autre volet qui a connu une nouvelle jeunesse dans les années 2010, qui est le mouvement qui était incarné par Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui là constitue une autre déclinaison de tout cela, qui peut avoir des points de convergence, parce qu'il y avait des analyses un peu du business plan de Vinci, par exemple, qui pouvaient faire appel au même type d'expertise, mais qui reposait en priorité sur une occupation physique sur le terrain, qui mettait plus l'accent sur la question de la désobéissance civile également. Donc on a des cocktails finalement d'actions qui peuvent doser plus ou moins l'un ou l'autre. Et je crois que l'un des défis qui se pose actuellement pour les mouvements, c'est savoir si ces différences de dosage permettent malgré tout au mouvement de se sentir dans une relative unité, malgré tout. Parce que finalement, ça peut amener à des cultures différentes. Et on l'observe à l'heure actuelle avec les mouvements qui ont émergé ces derniers temps, Extinction Rebellion, Just Stop Oil, Dernière Rénovation, ce genre de choses, où il y a, au fond, il y a de l'expertise, il y a du savoir qui peut être très important sur ces questions-là, mais par exemple, il y a une mise en avant beaucoup plus nette de la question de l'anxiété, de l'inquiétude, de la crainte sur le climat, qui se faisait moins chez des militants de générations antérieures, qui mettaient plus en avant l'expertise, en disant « il faut que je sois crédible ». Si je parais trop, justement, inquiet, ainsi de suite, je ne paraissais pas crédible auprès de certains acteurs sur lesquels je veux faire pression. Et donc, ce sera intéressant de voir si, il y a, malgré ces différences de culture, il y aura quand même le sentiment d'appartenir à un ensemble commun.
Justement, peut-être comment est-ce que vous travaillez, alors Reclaim Finance ou les Amis de la Terre, peut-être avec de l'historique, avec ces nouveaux mouvements qui peut-être ont une culture différente, aussi des modes d'action un peu différents. On a senti une forme dans ces mouvements que vous citiez à l'instant, hein, que ce soit Extinction Rebellion, Just Stop Oil ou Dernière Rénovation aussi, une forme d'activisme assez individuel, c'est-à-dire il y avait des personnes qui se mettaient en action avec finalement une coordination très horizontaliste dans ces mouvements-là. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que cette différence de culture vous permet de travailler ou au contraire vous éloigne?
Les différents mouvements sont hyper complémentaires les uns des autres. On le voit aujourd'hui que c'est extrêmement intéressant d'avoir un flanc radical avec des mouvements type Extinction Rebellion qui émergent, parce que ça permet de rappeler l'éthique derrière la lutte. Ça permet aussi de rappeler tout simplement l'urgence à agir. Donc ça permet d'interpeller sur une urgence qui est bien réelle et qu'on va avoir tendance à minorer parce qu'il y a toujours quand même cette idée que les activistes en font trop, qu'ils ont une vision catastrophique. En vérité, on est dans une situation catastrophique. catastrophique, donc il est extrêmement important de le rappeler. Et c'est extrêmement complémentaire et bénéfique pour complémenter justement l'action des mouvements comme qui sont beaucoup plus techniques dans leurs recommandations, comme Reclaim Finance, puisque ces mouvements-là ouvrent aussi une porte d'entrée pour le greenwashing, pour tout un commun, enfin qui pour beaucoup de personnes qui vont pas regarder dans les détails, c'est plus dur, c'est plus compliqué, et donc il y a quand même l'idée aussi que bah, finalement on est tous d'accord, il faut avancer, mais c'est compliqué, et donc mais tous main dans la main, on va y arriver. Il y a quand même cette idée-là. Et donc, nous, bien entendu, on fait tout notre possible pour rappeler qu'il y a des critères clés qui s'imposent, des jalons clés à poser, à respecter dès maintenant, et il n'y a pas de débat à avoir. En revanche, les entreprises vont avoir tendance à tirer vers l'autre côté. Et donc, avoir un flanc radical qui exprime très clairement l'urgence à agir et où sont les responsables, c'est extrêmement bénéfique.
On parlait de pression à l'instant, de pression médiatique, de pression citoyenne. J'ai l'impression aussi qu'il y a une pression judiciaire qui apparaît peut-être récemment. C'est-à-dire il y a eu des procès contre l'État, mais il y a aussi eu des procès contre les entreprises, notamment menés par des ONG, parfois d'ailleurs en coalition. Est-ce que c'est un mouvement qui est nouveau? Il a toujours existé? Qu'est-ce qu'on peut penser de ces modes d'action aujourd'hui?
Alors, il n'est pas forcément nouveau, mais il est relativement récent, tout simplement parce que la législation environnementale, elle est relativement... elle est apparue, grosso modo, avec les années 70. Auparavant, il existait déjà quelques dispositions, mais les plus anciennes dispositions étaient plutôt pensées pour protéger les industriels, justement, pour leur permettre de polluer comme ils l'entendaient. C'était le principe, surtout, de tout ça, plus que pour, justement, permettre aux riverains de faire valoir leurs droits. À partir des années 70, on a eu petit à petit, toute une législation qui s'est mise en place. Au début, de manière timide, de manière plus en plus importante, notamment grâce à l'Europe. Et on le voit encore ces derniers jours, où justement, l'Europe en tant que telle, les institutions européennes, constituent aussi une pression qui conduit à agir, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau de l'État. Et à partir des années 80, qui allait de pair avec une montée en technicité, en expertise des militants, il y a eu une capacité d'autant plus importante d'aller en justice, de monter des dossiers qui devaient être techniques, crédibles et efficaces, et donc de faire valoir petit à petit ses droits aussi dans l'arène judiciaire.
Pour rebondir là-dessus, la judiciarisation, c'est une manière, quelque part, d'interpeller et puis de faire bouger les entreprises. Mais je crois comprendre aussi que chez Reclaim Finance, vous êtes aussi prescripteur. Vous travaillez avec des entreprises, avec des dirigeants d'entreprises pour les accompagner, quelque part, dans l'évolution de leurs pratiques, de leur modèle d'activité, leur business model. Comment est-ce que vous travaillez justement avec ces dirigeants alors que, quelque part, d'un côté, vous êtes dans une pression médiatique et puis de l'autre, en même temps, vous essayez de les aider? Est-ce que c'est pas parfois un peu... antinomique, paradoxal?
C'est un équilibre, c'est un exercice équilibriste, en effet. D'abord, il faut le dire, on ne le fait pas avec tout le monde. Nous, on va présenter nos recommandations à tous les acteurs financiers. Certains vont refuser le dialogue. D'autres vont au contraire l'accueillir. Et certains viennent nous chercher lorsqu'ils travaillent sur un sujet pour recueillir, en effet, nos avis, nos opinions et affiner leurs propositions. Et il peut y avoir deux intérêts à le faire. D'une part, une reconnaissance de l'expertise qu'on peut avoir et c'est du conseil gratuit, il faut le préciser, donc c'est tout bénef pour eux, et après une personne avertie en vaut deux, donc en fait il est aussi intéressant pour eux de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, puisque bien entendu dès lors qu'ils vont communiquer, nous allons réagir, et donc ça leur permet aussi de jauger les mesures, de finaliser leur politique ou de prendre des choix à l'aune de plusieurs facteurs, le facteur climatique, le facteur business aussi, combien d'argent ils peuvent perdre en raison d'une nouvelle mesure adoptée, et puis les bénéfices ou les risques en termes de réputation qu'ils vont engranger suite à une annonce. Et ces risques et des bénéfices réputationnels sont quand même aussi déterminés par la manière dont les médias vont traiter le sujet et la manière dont la voix citoyenne, envie de dire, va être relayé. Et clairement, aujourd'hui, Reclaim Finance ou d'autres associations comme les Amis de la Terre vont être les associations vers lesquelles les médias vont se tourner pour comprendre l'impact d'une mesure. Donc, pour des acteurs financiers, ça va être intéressant aussi d'être dans cette logique-là, d'aller chercher le retour pour pouvoir évaluer si le jeu en vaut la chandelle ou si peut-être il doit faire plus parce qu'il y a un gain en vérité à agir sur l'environnement parce qu'il y a une demande de la part des clients, pas seulement des clients individuels mais aussi des clients institutionnels.
Vous travaillez avec les dirigeantes et les dirigeants, mais je me posais aussi la question, comment est-ce que vous travaillez avec les salariés, c'est-à-dire ce type d'action avec une forme de pression médiatique, etc., peut être stigmatisant à très juste titre pour les salariés des entreprises en question, mais il y en a un certain nombre en même temps, et puis d'ailleurs parmi nos auditeurs, qui essaient d'avoir une action au sein de l'entreprise pour faire bouger les lignes. Est-ce que vous travaillez avec des collectifs en interne ou des syndicats en interne pour quelque part travailler sur plusieurs fronts?
Alors nous dialoguons avec nombreux salariés, pas nécessairement dans le secteur financier, hein, puisque la question concerne tous les salariés, hein, de grandes entreprises qui ont de l'épargne salariale organisée à travers leur entreprise, et donc il leur est possible aussi de se mobiliser sur cette question-là. Donc ce sont aussi des interlocuteurs intéressants pour nous. On pense vraiment que changer de l'intérieur, c'est intéressant. Les salariés sont un levier d'action intéressant au niveau de l'entreprise, donc c'est intéressant pour nous et stratégique pour nous de leur parler. Au niveau plutôt au-delà des salariés, bien entendu, nos premiers interlocuteurs sont les départements de RSE, donc développement durable, qui également se sont bien développés ces dernières années et ont un poids de plus en plus important dans les entreprises, alors qu'il y a une 10-12 ans, c'était encore le bureau au fond du couloir que personne n'écoutait. Aujourd'hui, il y a quand même plus de poids de la part de ces représentants, quand bien même le business prime bien, bien souvent. Et bah là, les règles qu'on applique sont extrêmement simples. En fait, on est extrêmement transparent sur nos positions et sur ce que nous allons faire. Et c'est comme cela, en fait, qu'on institue la relation aussi de confiance. C'est-à-dire qu'on ne publie pas, on ne communique pas sur un acteur financier privé sans l'avoir averti. Ça ne change absolument rien à notre avis, à la manière dont on va communiquer, mais au moins il n'y a pas de surprise. Et donc ça nous permet aussi d'en discuter en amont même, de manière à exprimer notre désaccord, notre conflit, de manière tout à fait courtoise. Et donc c'est comme ça aussi qu'on arrive à travailler.
On arrive bientôt à la fin de cette discussion. Je voulais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer les entreprises et faire face au dérèglement climatique, vous feriez quoi, Alexis ?
Alors, c'est parce que je travaille aussi sur ces questions-là en ce moment, mais je crois que l'un des points qui est important, c'est qu'il y a toute une législation qui existe, qui doit encadrer l'activité des entreprises, mais également les accompagner, et qui n'est pas toujours appliquée faute de moyens de contrôle de la part de l'État, parfois du fait de dérogations aussi qui sont accordées de la part de l'État. Et je crois que s'il y avait une application beaucoup plus rigoureuse de toute cette réglementation, eh bien ça permettrait aussi de fournir un cadre beaucoup plus clair aux entreprises pour savoir, voilà, là où il faut aller, il n'y a pas d'autre choix que celui-ci.
Un cadre réglementaire respecté. Et de votre côté, Lucie ?
Moi, je suis assez d'accord. Il faut déjà augmenter les moyens de pression, de sanctions, notamment de la part de l'AMF, hein, qui, quand bien même elle aurait plus de pouvoir, aurait du mal à les faire, à les appliquer aujourd'hui de par son manque de ressources. En revanche, la réglementation, il y a encore beaucoup à faire, puisque la réglementation, notamment sur le contrôle des institutions financières, s'en tient quand même beaucoup aujourd'hui à l'âme des mesures de transparence et pas du tout des mesures structurantes sur leurs activités. Donc il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là, et puis on espère aussi que on a parlé un tout petit peu de la judiciarisation de la lutte, et bien on espère aussi que les tribunaux s'emparent du sujet, enfin en tout cas répondent des affaires qui leur sont présentées pour un renforcement du droit environnemental.
Merci Lucie, merci Alexis pour cet échange. Si cela vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant ou maintenant@gmail.com. La fin de cet entretien, c'est maintenant.